Une vie au pays.
Si sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'Uber se spandis du nou folie poupée.
Une vie au pays, c'est une balade dans le pays de la Luigeois et des Bastides, à la découverte des acteurs de projets autour du développement durable et de la valorisation des ressources locales.
Si trapo pescami di l'usan de l'aspero, di luca o del rasi, di la mar de l'albiero.
Une vie au pays, c'est une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides, une semaine sur deux sur les ondes de Radio Albigès et CFM Corde.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Une vie au pays vous emmène au pays de Juliette, exactement le marché de Juliette, qui est une épicerie à Monestier, mais une épicerie pas tout à fait comme les autres et en même temps, si, Catherine Millot en est la propriétaire. Bonjour Catherine.
Bonjour, enchantée.
Alors depuis quand existe le marché de Juliette à Monestier ?
Alors le marché de Juliette existe depuis le 31 mai, c'est une reprise d'une épicerie qui existait déjà depuis 34 ans, donc un patrimoine on va dire commercial du village de Monestier.
Et alors c'est vous qui avez choisi le nom ?
Alors en fait Juliette c'est le prénom de ma grand-mère qui était commerçante, donc c'était l'occasion de lui rendre hommage. Il y a une épicerie, une décoration années 30 et il y a notamment la machine sur laquelle elle a toujours travaillé puisqu'elle tenait une mercerie. Voilà, c'était l'occasion de rendre hommage à ma grand-mère.
Et votre grand-mère était commerçante dans le coin ?
Non, ma grand-mère était commerçante dans les Deux-Sèvres et mon autre grand-mère était artisan commerçante aussi dans la même ville de Niort. Donc voilà, elle fait un petit peu le tour de la France via ce nouveau nom.
Alors on va revenir justement après sur la transmission de cette épicerie que vous avez reprise, mais vous n'avez pas l'accent, vos grands-mères viennent de Deux-Sèvres. Comment vous êtes arrivée à Monestier ?
Alors bah, le hasard d'une vie professionnelle, je suis arrivée à Toulouse il y a 5 ans et puis je cherchais à faire une reconversion, j'aime les vieilles pierres et quand je suis arrivée à Monestier, bien sûr, je suis tombée sous le charme du village et le chemin faisant, voilà, je suis arrivée à ce projet, sachant que j'avais déjà passé à Toulouse un diplôme en développement durable, donc c'était assez logique de se reconvertir dans l'éco-responsabilité.
Voilà, parce que donc vous avez repris cette épicerie qui était une épicerie normale de village avec tous les produits qu'on peut y trouver, sauf que vous y avez rajouté une dimension durable, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Tout à fait. Alors l'éco-responsabilité, c'est pas un label. En fait, c'est un engagement qui tourne autour des trois piliers du développement durable. Il y a la partie environnement, donc j'ai investi dans des frigos isolés qui consomment moins. Il y a la partie mise en avant des producteurs locaux. Et il y a la partie sociétale aussi, recréer du lien dans les campagnes, maintenir du service, développer aussi le multiservice pour que demain, eh bien, nos anciens puissent rester chez eux en ayant le service de proximité.
Alors c'est vrai, quand on arrive, effectivement, ça semble une épicerie comme on s'y attend. Sauf que quand même, le petit sas d'entrée est particulièrement chaleureux. Il y a des meubles en bois, il y a la caisse. Et alors, j'imagine, c'est vous qui avez tout refait ou c'était déjà comme ça ?
Non, c'est un ami qui m'a aidé en fin de compte à tout monter et à faire ce petit coin convivialité avec justement des meubles de famille. C'est un peu mon petit coin aussi. Et puis mettre en avant les produits locaux et faire un petit coin convivialité parce que l'été, évidemment, la région est très touristique, mais c'est vrai que l'hiver, c'est un petit peu plus isolé, on va dire. Et donc, à l'occasion, si quelqu'un veut prendre un café, etc., ou discuter et regarder tous les flyers sur ce qui se passe. C'est aussi l'occasion de garder du lien avec tout ce qui est culture, exposition, etc. Donc c'est pour voilà, que tout le monde puisse se retrouver et de tout âge et voilà, se trouver un endroit sympathique.
Voilà, parce que pour l'instant, vous n'avez connu finalement que la saison touristique. Enfin, on est en octobre, bientôt novembre. Donc là, vous commencez à découvrir aussi le local, pur local. L'accueil des habitants ici, ça a été comment ?
Alors, moi, j'ai commencé à venir au mois de novembre. Donc, effectivement, c'était l'hiver. L'accueil des habitants se passe bien. Ils sont contents, évidemment, que les commerces de proximité demeurent, sachant que l'avantage de Monestier, c'est qu'il y a tout type de commerce encore, ce qui fait une sorte de chaîne. Les commerçants sont plutôt jeunes et solidaires. Donc, ça aussi, c'est sympathique. Et puis, voilà, les gens sont contents qu'il y ait des reprises et que le village continue à vivre au-delà de la saison touristique, et ça les réconforte aussi de savoir que même en plein hiver, ils peuvent, ils auront de quoi manger si le temps se gâte, etc. Donc c'est vrai que c'est important. Et puis du multiservice, la presse, le gaz, les photocopies, ça évite souvent de prendre sa voiture en plein hiver pour un petit service de proximité.
Donc voilà, ils sont quand même venus, même s'il y avait surtout des touristes cet été, il y avait autant de touristes que de locaux.
Alors bon, après, il faut que les gens aussi retrouvent confiance. C'est un changement, hein. Les gérants précédents étaient là depuis 34 ans. Donc voilà, c'est important aussi que les gens puissent découvrir. Et puis c'est un changement de concept. Donc il faut justement qu'ils s'approprient aussi le commerce. Et puis bon, moi je ne suis pas native d'ici. Donc il faut que chacun apprenne à se connaître, à se faire confiance. Mais bon, je suis complètement confiante. Et il y a beaucoup de gens, enfin, de compte, qui viennent justement et qui sont attachés à maintenir cette proximité et qui font l'effort de se déplacer.
Et alors les anciens propriétaires vous ont vendu l'intégralité, j'imagine ?
Alors j'ai racheté le fond, pas les murs, voilà, et ils sont partis donc à la retraite. Bien mérité, parce que c'est vrai, c'est une vie quand même très, très intense, hein. Ils étaient ouverts 7 jours sur 7. Donc voilà, c'est un investissement. Je pense qu'on fait ce métier par conviction quand même, parce que c'est très prenant. Et puis c'est physique aussi, il faut dire ce qui est. Donc c'est important qu'eux puissent profiter aussi de leur retraite.
Et alors, ils ont choisi le fait que ce soit vous qui repreniez la suite, ou est-ce qu'il y avait d'autres candidats ? Est-ce qu'ils étaient au courant de votre nouveau concept ?
Alors, je crois que j'étais parmi d'autres, hein, effectivement. Oui, ils étaient au courant du concept, tout à fait. Et puis, après, bon, ça s'est fait via la chambre de commerce, en fait, aussi. Donc, j'ai une interlocutrice qui suit le dossier dans le temps, parce que c'est très important dans les entreprises françaises aussi, surtout dans les reprises, qu'il y ait une pérennité, en fait. Il est important aussi que... Enfin, moi, je serais attachée à avoir des consultants, on va dire, enfin, ou du moins des professionnels qui me suivent. C'est rassurant et on se sent soutenu quand même.
Avant d'être épicière, puisque ça, alors c'est marrant parce que ça fait un peu rêver toutes les jeunes filles, je crois, peut-être même les garçons aussi. Épicière, on a tous rêvé de taper sur la machine quand on était jeune. Vous faisiez quoi comme métier ?
Alors, j'étais responsable communication et marketing, donc j'ai travaillé dans la grande distribution, dans le monde de la finance. J'étais formatrice aussi en commerce, donc du coup, j'ai abordé notamment le milieu de la grande distribution. Et comme par conviction, j'ai passé effectivement un diplôme en développement durable, voilà, la reconversion a été un peu logique. J'avais vécu aussi à la campagne, donc j'étais aussi habituée à la ville et à la campagne. Donc ça s'est fait comme ça, en fait, voilà.
Et donc un volet essentiel de cette épicerie, voilà, qu'on peut aborder plus précisément, le local. Alors c'est quelque chose qui met du temps. Vous proposez actuellement des produits locaux ?
Oui, tout à fait. Bah, rien que au niveau des producteurs de Gaillac, bien sûr, hein, puisque la date fatidique du Gaillac Primeur arrive. J'ai 7 fournisseurs au niveau local. Bien sûr, les jus de pommes, le miel. Enfin, tous les producteurs locaux qui font des bons produits sont bien sûr les bienvenus. Après, je vérifie quand même aussi leur implication en matière d'éco-responsabilité. Et puis aussi, je fais travailler le bouche à oreille parce que il y a des gens qui connaissent des producteurs depuis très longtemps et il faut qu'il y ait cette confiance, cette qualité du produit. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le prix, puisque ça reste très important. On peut manger bien local et pas nécessairement très cher. Alors après, ça demande du travail et ben ça, c'est mon travail justement qui prendra du temps, mais je suis toute confiante pour ça.
Mais alors, donc vous allez voir des producteurs et est-ce que les producteurs aussi viennent vous voir? Comment ça se passe le choix des personnes que vous allez proposer à la vente?
Ben, en fait, ça se fait beaucoup par relation, en fait, par des restaurateurs qui me parlent de fournisseurs avec lesquels ils travaillent depuis plusieurs années. Moi, je fais beaucoup travailler le bouche à oreille, en fait. Et donc, ils viennent me voir, ils me proposent leurs produits, je les teste, je les fais tester, parce qu'on aime ou on n'aime pas. Après, c'est une question de goût. Et puis, au fur et à mesure, je les référencie dans le commerce.
Parce que local ne veut pas forcément dire bon.
Alors, local ne veut pas nécessairement dire éco-responsable. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement la proximité en termes de distance, mais la qualité du produit, il faut quand même la tester. Et après aussi, il faut qu'il y ait toute la démarche. C'est-à-dire qu'on peut produire un bon produit en n'étant pas nécessairement respectueux de l'environnement. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut quand même vérifier. Et en fait, en général, quand on rencontre le producteur, on voit tout de suite si c'est quelqu'un qui produit par conviction et qui a l'amour de son métier. Et en général, c'est le cas, heureusement.
Et alors, depuis tout à l'heure, vous employez le terme éco-responsable et non pas le terme bio. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?
Tout à fait. L'éco-responsabilité, c'est un engagement. Donc, on essaye d'aller le plus loin possible. Alors, il y a une norme internationale, mais dans un commerce comme ici, c'est beaucoup trop important. Le bio est un label. Donc là, il faut répondre à un cahier des charges. Alors après, le bio, heureusement quelque part, mais à un coût pour le producteur, puisqu'il doit faire des audits, etc. Et après, selon les produits, malheureusement, par exemple, si on prend l'exemple du miel, les abeilles ne vont pas que sur les fleurs qui sont elles-mêmes bio. Donc, il faut faire la part des choses. Et puis, il y a des producteurs qui, depuis très longtemps, font de l'agriculture raisonnée et qui, en fin de compte, naturellement vont répondre au cahier des charges bio sans avoir le label. Donc, en fait, on peut avoir la qualité du bio, on va dire, sans que le producteur nécessairement supporte le coût. Donc, effectivement, c'est très différent. D'un côté, c'est un engagement. De l'autre côté, c'est une certification.
Et alors donc vous cherchez à développer de plus en plus ce local pour diminuer la proposition des produits qui viennent de loin ?
Alors, si possible, effectivement, c'est diminuer l'impact du transport, parce qu'il est de plus en plus énergivore, même s'il y a de plus en plus de normes aussi d'économie de carburant. Et puis aussi, diminuer les temps de transport, essayer aussi de limiter tout ce qui est emballage, etc. Donc oui, et les producteurs locaux aussi pour faire vivre l'économie. Parce que tout ce qui... Beaucoup de métiers, heureusement, ne sont pas délocalisables. Mais pour ça, il faut soutenir l'économie et que chacun s'engage, soit en le vendant, soit en l'achetant, et participe à ce système, en fait, puisque dans le Tarn, il est important quand même qu'on maintienne de l'emploi, puisqu'on n'a pas la chance, comme d'autres régions, d'avoir des grandes industries. Enfin, on a quand même tout ce qui est pharmaceutique. Mais il est important, effectivement, de maintenir ce local qui nous assure la qualité et aussi l'emploi.
Et alors... J'imagine que les producteurs, les éleveurs, les paysans, les agriculteurs avec qui vous travaillez se connaissent entre eux. Il n'y a pas trop de guéguerre de qui est bien et qui pas bien. Parce que vous arrivez, vous êtes vierge, entre guillemets. Vous gardez la neutralité, j'imagine.
Oui, et puis l'avantage, c'est que même deux fromages ne se ressemblent pas nécessairement. Chacun a ses goûts, ses préférences. Donc, en fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'agriculture, au niveau de la production locale. Je pense qu'on a encore de la marge. Et chacun travaille différemment. Chacun a ses propres convictions. Et le consommateur a encore beaucoup de choses à trouver dans sa propre région et juste à côté de chez lui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
Donc ça veut dire que par exemple, si vous découvrez deux cabécous de deux producteurs différents qui sont éco-responsables, dont le fromage est d'extrême qualité, vous les prenez quand même tous les deux.
Oui, j'ai l'exemple de fromage de ferme de vache. Je les fais tourner, entre guillemets. Donc après, quand j'en reçois un, j'en informe les clients à l'extérieur. S'ils sont adeptes de celui-là, ils viendront acheter celui-là. Et la semaine suivante, ça sera un autre.
Dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la Reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Mulholliday. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne en mettant psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loïc Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire, la Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille, Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai, et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, Hollande, bouge, rose à la rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame, Donia ou Miss Compariotis, ou les Dacis, Angela et Bette Davis. Du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Brocchia Lupès. Enfin, j'ai pour être sincère du goût pour les belles arrangères, Yvette Guilbert, Claire Bredacher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka, Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en capotine, en libertine, en bourgandine. Tiens, en Juliette Nourédine.
De retour dans votre magazine Une vie au pays, une émission diffusée sur Radio Albugès et CFM Radio. Aujourd'hui en compagnie de Catherine Millot qui nous présente son épicerie Le Marché de Juliette, ouverte depuis le mois de mai à Monestier.
L'ensemble de cette démarche qui donc tend petit à petit à être de plus en plus locale, est-ce que ça rentre dans une idée, dans une philosophie de décroissance ?
Alors la décroissance est un grand débat que je laisse aux politiques. Là-dessus, je pense que je ne vais pas m'engager. Je pense qu'on parle de décroissance, mais je pense que déjà on peut aller vers une consommation beaucoup plus raisonnable. Il ne faut quand même pas oublier qu'on jette encore un tiers de ce qu'on achète, dont la moitié qu'on n'aura même pas ouvert. Donc je pense que déjà au niveau de sa propre consommation, on peut rationaliser sans parler nécessairement de décroissance. On consomme encore beaucoup en volume, pas nécessairement en qualité. Et je pense que déjà, si on rationalise cette part-là, on aura fait un pas en avant sans nécessairement dépenser plus. Il faut juste faire un petit peu attention et ça demande, je pense, pas beaucoup d'efforts. Et puis, bien regarder toute la partie marketing, publicité, parce qu'il y a des promotions, il y a des bonnes affaires, mais on a tendance, comme tout le monde et moi la première, quand on arrive dans certains magasins, de mettre dans le caddie toutes les promotions en se disant de toute façon je m'en servirai ou je le consommerai. Et en fait, objectivement, on sait qu'on ne va pas nécessairement le faire. Donc il faut juste un petit peu peut-être être plus attentif à ce qu'on achète. C'est vrai que l'alimentaire baisse en part, heureusement, puisque dans les années 50, c'était 50% du budget, c'était énorme. Donc il faut peut-être faire un petit peu plus attention et ça suffira, je pense, pour faire un grand pas en avant.
Et alors donc vous proposez, vous disiez, du vin, du miel, du fromage, j'ai peut-être pas tout entendu, qu'est-ce qu'il y a d'autre en local ?
Alors de la viande bien sûr, de la charcuterie, après des pois cassés, des pois chiches, les fruits et légumes, et au fur et à mesure rentrer d'autres produits, les noix, etc. Donc aller chercher le meilleur de ce qu'il y a dans la région. L'avantage, c'est que le réseau se structure, il y a des coopératives qui se créent, il y a des organisations professionnelles qui s'optimisent dans leur organisation. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire.
Alors là, depuis tout à l'heure, en fait, il y a quand même 4 personnes qui sont venues alors que c'est encore fermé. Décidément, quel succès !
Oui, mais je crois que je vais ouvrir pendant les heures de fermeture. En fin de compte, les gens viennent surtout avant que ça soit ouvert. Mais c'est vrai qu'en général, quand même, les gens viennent faire du dépannage. Donc, quand ils vont au travail ou quand ils reviennent, c'est l'objectif, justement. Hein. L'objectif, ce n'est pas qu'ils viennent faire toutes leurs courses. Parce que pour ça, il y a des magasins beaucoup plus achalandés. Mais qui viennent faire, justement, les courses de passage pour éviter de faire des grands détours et perdre du temps.
Alors justement, vous, quand même, dans ce que vous proposez en local, c'est finalement la base à partir de laquelle on peut manger bien, confortablement, sans aller dans les petits plaisirs, ce qu'on appelle le chocolat, le café, l'avocat et tout ça. Enfin, je cite ces trois-là parce que ce sont ceux qui risquent de nous manquer le plus si un jour il n'y a plus d'importation. Comment vous allez faire ?
Alors, je ne me suis pas encore posé la question. C'est clair que pour le moment, on est bien achalandé. Après, bon, on verra. Mais l'objectif, c'est de proposer effectivement les produits. Déjà, en France, on mange bien. On a cette chance d'avoir une variété extraordinaire. On a même accès à des cuisines étrangères, exotiques. Enfin, on peut toujours se faire plaisir. Mais c'est vrai que les produits de base, il faut qu'on puisse les vendre, la viande, le lait, le beurre, et essayer de faire effectivement effectivement du local, et puis ou du moins déjà du français, c'est bien, et de mettre en avant même d'autres spécialités d'autres régions, puisque moi, comme j'ai fait un peu tout le tour de la France, je profite aussi de mettre en avant des produits qui ne sont pas nécessairement connus ici, mais qui sont des spécialités qui sont excellentes.
Et est-ce qu'il y a des produits que vous cherchez dans le local que vous n'avez pas encore découvert ? Peut-être un appel aux producteurs ?
Alors, je cherche effectivement de la viande en petite quantité. La problématique, en fin de compte, c'est que les épiceries indépendantes, il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est un challenge de ne pas travailler sous franchise, en fait, et sous enseigne. Donc, du coup, on n'a pas nécessairement beaucoup de débit. Et comme certaines professions, notamment tout ce qui est viande, est très réglementé, il faut passer par les abattoirs. Donc, après, ce n'est pas toujours évident, effectivement, de faire entrer du local en n'ayant pas les débits, mais à force de chercher, on finit toujours par trouver.
Eh bien, merci Catherine Millot de nous avoir fait découvrir cette épicerie. Donc voilà, on peut tout trouver pour se dépanner au marché de Juliette. On peut aussi trouver les produits de base qui ne sont pas pour se dépanner, mais vraiment pour faire son pain à la châtaigne, à la noix. Donc de la viande, du vin, du miel, j'en oublie beaucoup. On peut aussi découvrir des bijoux locaux.
Alors, les bijoux ne sont pas locaux. En fait, ils viennent d'Équateur parce qu'ils ont été ramenés par ma nièce du marché de Quito. Comme je sais d'où ils viennent et que justement, c'est des produits artisanaux, je me suis permis de les proposer aux clients pour notamment les cadeaux de Noël. Et puis voilà, on fait une bonne action et on essaye justement d'optimiser toujours l'éco-responsabilité avec l'aide aux associations aussi. Toute la petite monnaie, je la récolte pour une association de monestiers pour l'Afrique. Enfin, l'idée, c'est que chacun participe, même très modestement. Et à la fin, de toute façon, comme on dit, c'est les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. J'en suis convaincue. Et j'espère que les habitants le sont aussi et qu'on arrivera justement à maintenir cette vie rurale qui est très importante, notamment pour l'avenir.
Donc venez donc discuter de tout ça avec Catherine Millot qui donc vous ouvre son espace convivialité juste avant d'entrer dans l'épicerie. Enfin c'est le même local, mais c'est vrai que ça fait un petit espace assez charmant et assez chaleureux, un espace de convivialité qui laisse entendre que vous êtes ouverte sur l'extérieur et vous ne restez pas figée dans votre épicerie.
L'objectif, justement, c'est d'optimiser certaines actions. Par exemple, dimanche prochain, on fait une action pour laquelle les fonds seront reversés au Resto du Cœur. C'est-à-dire que plutôt que d'aller porter mes cajots à recycler, je les stocke depuis 3 mois. Ils sont bien secs. Et comme ça, les gens qui ont la chance de pouvoir se chauffer et qui ont besoin de bois pour allumer les feux vont venir acheter vraiment pour une somme modique et symbolique des cajots. Et ce sont 2 jeunes du village qui sont bénévoles, qui vont s'en occuper. Donc voilà comment préserver la planète, rendre service et peut-être, et j'espère, pourvoir à quelques repas de gens qui en ont besoin.
Donc vous êtes ouverte aux idées justement de partage qui peuvent être générées ici à l'épicerie ?
Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, qui dit économie peut aussi dire solidarité. Ce n'est pas du tout incompatible et il suffit d'agir et de mettre en œuvre.
Venez donc discuter de tout ça, découvrir ces produits et surtout faire avancer les choses peut-être. Merci Catherine.
Merci beaucoup et à bientôt j'espère.
Juste, est-ce que vous pouvez nous donner vos horaires ?
Oui, tout à fait. Alors, je lis les horaires divers, c'est 8h30, 12h30, 15h30, 19h. Et je suis fermée le dimanche après-midi et le lundi.
Merci et puis à très bientôt.
Une vie au pays.
Si sabías mon país, a ni non ni frontiero, di l'Uber se spandis, du nou folie poupée.
Une vie au pays, c'est une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides, une semaine sur deux sur les ondes de Radio Albigès et de CFM Cordes.